Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La lettre taxée. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Il est 11h30. Après une matinée de travail, Pierre entre chez lui. Un immeuble moderne de 5 étages, rue Juliette Récamier. C'est un homme de 50 ans, grand, mince, cheveux châtains, habillé d'un costume gris et d'une chemise bleue. Une fois rentré dans son immeuble, il va ouvrir sa boîte aux lettres. Des pubs, une lettre, son compte de sa banque, un avis de passage pour une lettre taxée, 5,70 francs. Qu'est-ce que ça peut être? De la pub? J'ai déjà eu des lettres de pub taxée. Si cette fois c'est ça, je ne la prends pas. Je verrai bien. Avec son courrier, il va jusqu'au fond du hall pour prendre l'ascenseur pour monter au 5e étage. Il habite un petit 4 pièces. Il sort de l'ascenseur et va ouvrir la porte de son appartement, qui est la porte de droite. À l'entrée, en face séjour, à droite du couloir qui donne au salon, bureau, une pièce, disons, audiovisuelle, la chambre, salle de bar et WC. C'est moderne, propre, avec très peu de meubles. Une fois entré chez lui, il va voir son courrier à son bureau. Il regarde les pubs, les jette à la panière, ouvre la lettre de son compte, surpris de voir tout ce qui lui reste sur son chéquier. Ces imbéciles, lorsque je suis allé à la banque la semaine dernière, j'aurais demandé combien il me restait sur mon chéquier. Le guichetier m'a donné une somme, surpris qu'il me reste si peu d'argent, j'en ai rajouté. En réalité, c'est idiot. M'a dit la somme en euros sans me prévenir, et moi je croyais que c'était en francs. Si ça commence comme ça, ça va avoir de drôles d'ennuis. Il va y avoir des erreurs et de la panique. Bon, il soupire et regarde la vie de passage. Il se demande que ça peut bien être comme courrier et se dit « La poste ferme très tôt. Je ne vais pas m'absenter pour aller chercher une lettre. Je vais leur dire de me l'apporter à mon lieu de travail. » Il prend son carnet pour regarder l'adresse de la poste. Le trouve. Il fait le numéro de la poste. Bonjour monsieur, je suis Perrier-Vernet. Je viens de trouver un avis de passage dans ma boîte aux lettres. Et j'aimerais c'est que vous puissiez, si c'est possible, me l'amener à une autre adresse. Vous avez la lettre? Pouvez-vous me dire ce que c'est, si elle a une en-tête? Non. Elle vient de Limonest. C'est une lettre d'un particulier et épaisse, pas assez timbrée. Bon, eh bien, vous me l'envoyez au 24 rue du Sergent Blandan, Lyon 1er. Monsieur Vernet, le fantôme me connaît, j'ai beaucoup de courriers. Merci. Met l'avis de passage dans sa poche, le relevé de compte, il va le mettre dans son tiroir. Puis, il sort du bureau pour aller à la cuisine. Se préparer un petit repas. Après avoir mangé et fait sa vaisselle, il est reparti à son travail. Il y va à pied car il doit prendre le courrier à la boîte postale des Terreaux et puis aller au 24 rue du Sergent Blandan. Il travaille dans une radio, fait des émissions. Durant toute la journée, il se demande qui peut bien lui avoir écrit. Je ne connais personne à Limonest. Voyons, ma famille, peut-être. Le soir, en rentrant chez lui, il fait les 100 pas pour réfléchir. Un de mes oncles, une de mes tantes. Je ne me souviens même plus où ça se trouve, Limonest. J'ai un trou. À moins que ce soit mon frère, ou la femme de mon frère, ou un de ses fils. Je ne vois pas. Peut-être Florence ou Charles. Elle aurait peut-être le culot de m'écrire celle-là, après ce qu'elle a fait. Et lui, Charles, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Petit à petit, c'est effacé de ma vie. Je ne pense pas que ce soit lui, mais Florence. À moins que ce soit Gilles ou Sweetie. Si j'allais voir dans mon cahier d'adresse, il n'y a pas une personne qui habite Limonest. Sort de son salon pour aller à son bureau ouvrir son cahier d'adresse. Il y a des noms de gens, même des noms de gens dont il ne se souvient plus, comme l'on oublie vite. Peut-être étaient-ce des gens qui nous paraissaient importants à cette époque. Maintenant, ces noms ne signifient plus rien. Il n'y a personne. Ces noms étaient des gens que l'on a aimés, qui nous ont apporté du plaisir ou de la souffrance, sera incapable de mettre un visage sur aucun de ces noms. La vie, ce n'est pas grand-chose. L'on ne fait que passer en oubliant au passage des êtres, des peines, des joies. La nature, tous les 10 ans, nous transforme complètement. Nous n'avons plus le même corps. Et comme si tous les 10 ans, on était un autre. Ce qui nous avait paru essentiel, en changeant, on l'oublie. Que d'amour oublié. Il soupire. Il cherche à voir s'il n'y a pas une personne qui habite Limonest. Il voit toutes les adresses, mais non, il ne voit personne. Le mystère reste complet. Il ferme le cahier. Pourvu que ce ne soit pas Florence, elle serait bien capable de revenir après ce qu'elle m'a fait, la garce. Il se lève furieux et marche en réfléchissant. À moins que ce soit un de mes oncles pour une affaire de famille. Mais non, il sait où j'habite. Il se serait déplacé. Je suis sûr que c'est Florence. Il se souvient de la dernière fois où il l'a vue. Il se souvient. Un soir, elle est venue le voir dans sa chambre. Lorsqu'elle est entrée, il regardait la fenêtre. Il a entendu la porte s'ouvrir, s'est retourné et était surpris de la voir. Elle s'est approchée de lui, gênée. Elle est grande. Mince, blonde, cheveux longs, jeune dans les 25 ans, habillée d'une robe beige en laine. Il lui a demandé « Tu as quelque chose à me dire ?»«
Oui, je crois qu'il vaut mieux que tu le saches. Je m'en vais demain matin.
Je te quitte. » Il lui dit « Après ce que tu m'as fait, tu pars ? Comme ça ?»
On va croire que c'est moi le coupable. Tu aurais pu avoir la délicatesse
de rester. Elle lui dit, c'est justement à cause de ce qui s'est passé.
Il va s'asseoir.
Elle reste debout et continue à lui parler. C'est justement à cause de ce qui s'est passé. Que je ne veux plus vivre avec toi. La vie nous deviendrait insupportable. Il lui dit, te deviendrait insupportable.
Non, nous. Tu vivrais constamment sur le qui-vivre avec moi, en te demandant à chaque fois ce que je peux bien faire. Tu finiras par avoir de la haine pour moi.
Il lui dit, ça me regarde. Si je tiens à ce que tu restes avec moi. Elle s'approche de lui et lui demande « Pourquoi faire ? Nous n'aurions jamais dû nous marier. Moi, je ne voulais plus. »
Il se lève et va à la fenêtre.
Elle lui dit « Je t'aime. C'est une erreur. La preuve, n'avons rien en commun. Toi, tu aimes la vie simple et tranquille. Moi, j'aime le monde, les fêtes. Tu voulais un enfant. Moi, je n'en voulais pas. J'ai essayé d'être une bonne épouse, de faire mon devoir d'épouse. » Il se retourne vers elle et lui dit, « Je sais,
avec réticence et dégoût. Chaque fois que je te touchais, je sentais du dégoût, de la réticence, comme si mes bras, mes mains étaient sales. Tu ne supportes rien. Je ne supporte pas que tu me touches. Je trouve dégoûtant ce contact. Mais toi, à ma place, je les fais faire ces choses. Il y a des choses dégoûtantes. Ce n'était pas propre. Il les épaule et lui dit, j'y suis pour rien, moi. Si la nature a voulu que ça se passe comme ça et dans ses parties, une femme accepte et même souhaite ce genre de choses. Elle lui dit, je me demande comment. Il lui dit, en tout cas, avec lui, elle lui dit, avec lui, c'était pas la même chose. Et puis, il n'en a jamais. Il marche un peu dans la pièce et lui dit, à un moment, j'ai pensé que tu n'aimais pas les hommes. Elle hausse ses épaules et lui dit, c'est ridicule, je les aime bien. Quel genre d'homme? Les hommes qui font homme, bien, distingués. Il lui dit, avec une belle situation, distinguée. Mais qu'est-ce que tu avais envie? Est-ce que tu avais envie de coucher avec lui? Elle hausse ses épaules et lui dit, tu es ridicule. Tu voulais que je te trompe? Non, mais j'aurais mieux aimé que tu désirais un homme. Ça aurait été bien entendu regrettable, mais mieux que cette regrettable affaire. Arrête. Pendant quelque temps, j'ai pensé que tu n'aimais pas les femmes. Moi? Et pourquoi? Parce que tu es toujours avec ta copine Nathalie. Elle n'est pas mariée. Elle n'a jamais eu un petit ami. Laisse Nathalie tranquille. C'est une brave fille. Et ne te fais pas de soucis. Je pars. C'est pour vivre seul. T'en fais pas. Je ne pars pas avec lui. Il s'approche d'elle. Tu décides de partir, mais tu ne demandes pas si je suis d'accord. D'accord ou pas, je m'en vais. Bien, pars. De toute façon, nous n'avons jamais vraiment vécu en couple. Nous vivions chacun dans notre coin. Mais si tu pars, ne reviens plus. Je ne reviendrai plus, je te le promets. Elle se dirige vers la sortie. Avant qu'elle ne parte, il lui demande, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais? Elle se retourne et lui dit, nous ne devions plus en parler. Parce que tu pars, tu peux bien me le dire. Disons des folies, d'étouffement. Je m'étais imaginé que c'était la seule façon de m'en sortir. Tu étais si malheureuse que ça? Non, mais je m'ennuyais. T'es mariée pour l'argent? Peut-être, je ne sais plus. Mais n'en parlons plus. Parlons plus de tout ça. Je pars, c'est fini. Encore une question. Tu es déçue de ce que je t'ai pardonné? Moi? Mais m'as-tu vraiment pardonné? Tu le crois, peut-être? Et c'est pour cela que tu pars? Non, c'est pour vivre. Ici, j'étouffe. Eh bien, pars, mais ne reviens plus.
Et elle le quitte. Lui, il va à la fenêtre la regarder partir.
Je crois que je ne l'aime plus. Il se souvient. Il avait connu dans une soirée chez des amis. Il avait remarqué, belle, élégante, et s'était laissé courtiser, peut-être parce qu'elle le trouvait assez élégant. Elle était déjà accompagnée de son amie Mathilde, drôle de fille celle-là, toujours près d'elle.
On va aller s'asseoir là-bas. Hein. avec nous ?
Ah, dis donc, si j'avais su qu'il serait tapé comme ça...
Après la soirée, il la raccompagnait avec Mathilde. Elle habitait chez son père dans une maison. Sa mère était morte depuis longtemps déjà. Avant de se quitter, il va demander si elle acceptait de le revoir. Elle a dit oui. Ils se sont revus, ont sorti ensemble, des fois seuls et des fois avec Mathilde. Chaque fois qu'il voulait l'embrasser, elle se débattait.
Non, pas comme ça, après le mariage. Mais c'est ridicule!
Elle a demandé sa main, son père était d'accord, mais elle, elle ne voulait plus. Au clair de lune, dans son jardin, elle lui a dit « Je ne veux plus me marier. »«
Mais pourquoi ? Vous ne m'aimez plus ?»«
Ce n'est pas ça. J'ai décidé c'est de ne pas me marier. »«
Pourquoi ?
Parce que je ne veux pas. Je ne veux pas me marier. »«
Vous ne m'aimez pas ?
Je ne dis pas ça. »« Eh bien alors, marions-nous ?
Mais nous n'avons aucun goût en commun. »
Comment le savez-vous ? Marions-nous, et je vous jure, c'est que je vous rendrai heureuse.
Et ils se sont mariés. Au début, tout semblait aller à peu près, à part une certaine réserve chez eux. Puis, petit à petit, elle a pris de l'assurance. Elle s'est mise à vouloir sortir seule, à demander de l'argent. Cela lui semblait naturel. Et puis, un après-midi, il faisait particulièrement chaud. Très chaud. Et il a perdu de la tête. La tête la première dans son bureau. Il s'est réveillé dans son lit. Sa femme était près de lui. Et un homme, grand, mince, très élégant, dans les 30 ans, était auprès d'elle. Elle lui dit « Tu as eu un malaise. J'ai fait venir le médecin, le docteur Poirier. » Le médecin se penche et lui dit « Ce n'est rien. Il va falloir vous faire quelques examens après un petit traitement. Votre femme m'a dit que vous travaillez beaucoup ces derniers temps. Je fais quelques heures supplémentaires. Il va falloir vous reposer. Je vous laisse. J'ai laissé une ordonnance à votre femme et la liste des examens à faire. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame.
Je vous raccompagne, docteur. »
Elle le raccompagne. Puis, elle est revenue le voir.
Ne te fais pas de soucis, je vais bien te soigner, tu verras.
Désormais, il est seul dans sa chambre, elle a pris celle qui est à côté de la sienne. C'est elle qui s'occupe de lui, lui porte ses repas, lui donne ses médicaments, des gouttes, des comprimés, des ampoules, de la poudre. Il se sent faible, il ne supporte pas la position debout.
à part aller aux toilettes, ne se lève pas, maigrit. Des examens ont été faits, le médecin lui dit « Vous avez des ennuis du côté du corps, mais rien de grave. Du repos, beaucoup de repos. » Un soir, qu'elle lui prépare ses médicaments, il lui dit « C'est pas normal que je me sente si faible. » Qu'est-ce que j'ai exactement?
Le cœur fatigué. Repose-toi. Tes amis, ta famille s'inquiètent. Je leur dis qu'il te faut pas de visite, que tu es très faible.
Puis, les jours ont passé, toujours aussi faible. Florence, par contre, semble rayonner. Elle est là. Elle va, elle vient. Il la voyait aller venir dans la pièce avec aisance, préparer les médicaments sans hésiter. Mais un soir, elle lui dit « Si tu ne vois pas d'inconvénient, j'aimerais sortir ce soir. »
« Où vas-tu ? »
« J'ai une amie du docteur. »
« Oui, vas-y, ça te fera du bien. »
Elle l'embrasse et lui dit « Merci, mon chéri. »
Elle sort de la chambre.
Désormais, elle sort une fois par semaine. Il n'ose pas lui refuser. Le médecin vient le voir très souvent. Il a le sourire, ce cher médecin. Il s'approche de lui. Florence est près de lui et lui dit «
Comment va mon malade ? »
Et l'ausculte. Très bien, tout va bien. Continue ainsi.
Je suis très faible, très faible. Ce n'est rien.
Puis, avant qu'il ne vienne dans la chambre, il entendait des rires du docteur avec sa femme, des regards, des poignées de main. Le médecin venait de plus en plus souvent. Et un soir, qu'elle était absente, il s'est senti très mal, a sonné la domestique. Elle l'a vu, essoufflé, transpirant.
« Mon pauvre monsieur, je vais appeler le médecin. »
Elle sort de la chambre. Aller au bureau, téléphoner au médecin. Le médecin était absent. Alors, elle a téléphoné à SOS Médecin.
Un jeune médecin, grand, mince, blond, est venu. Il a ausculté et a dit « Vous pouvez revenir en ambulance. »
«
Qu'est-ce que j'ai, docteur ?
Un empoisonnement à l'arsenic. Je veux vous amener à l'hôpital. Alors il a compris d'un coup. C'était simple, même vaubilesque.
Non, je veux pas. Pouvez-vous me soigner ici ?
Vous avez un empoisonnement à l'arsenic. Vous avez dû prendre de l'arsenic à petite dose depuis quelque temps déjà. Cela est grave. Il faudra peut-être que j'appelle la police.
Non, laissez. Je vous en prie. Soignez-moi ici.
Comme vous voudrez. Le médecin voit sur la table de nuit les médicaments. Ce sont vos médicaments ?
Oui. Ne vous en occupez pas. Jetez-moi tout ça. J'avais le corps un peu là.
Bien, je vois. Vous voulez vraiment pas ?
Non.
Bien. Je vais vous faire une culture, une piqûre et un lavement pour commencer. 2 heures plus tard, le médecin est parti. Il lui a dit qu'il reviendrait. J'avais eu de la chance. Florence est revenue. La bonne l'a prévenue. Elle va le voir son mari dans sa chambre. Elle s'approche de lui. Elle est en robe du soir.
Tu es très belle. Tu sais. Pourquoi tu fais ça ?
Elle baisse la tête et soupire. Je suis mariée avec toi. Je ne t'aimais pas. J'ai cru que je pouvais t'aimer.
Mais non. C'était plus fort que moi. Tu me dégoûtais. Je ne supportais pas que tu me touches.
Je n'aimais pas tes manies, ta façon de manger, boire, ta figure, tes cheveux raides, ta peau rugueuse. Tout me déplaisait. Je me voyais mourir d'ennui près de toi. Et puis un soir, chez les Vernet, j'ai rencontré le docteur. Il était beau, charmant. Il aimait rire, tout le contraire de toi. Nous avons sympathisé et tu as décidé de m'éliminer. Elle ne dit rien, la tête débaissée. Il lui dit,
c'est étrange. Je t'aime. Je ne t'en veux pas. Je comprends. Ne parlons plus de tout ça.
Merci. Tu es très bon. Puis, ils ont essayé de vivre ensemble, comme si de rien n'était. Ou on fait semblant. Comme lui l'aimait, il a vraiment essayé. Elle, il ne sait pas. Son amant n'est plus revenu. Le médecin est venu le voir plusieurs fois. Il est resté correct et n'a fait aucune réflexion comme le lui avait demandé Pierre. Les jours ont passé ainsi, comme si de rien n'était. Pierre a été rétabli, a repris son travail. Pour ne pas la gêner, ils n'ont pas refait chambre commune, ni eu de rapport intime. Malgré qu'il essayait de lui rendre la vie agréable, il la voyait s'étioler, maigrir, devenir mélancolique. Il demandait souvent ce qu'elle avait. Elle répondait rien, jusqu'au fameux soir où elle annonçait son départ. Elle est partie.
787.
Il a vu à la fenêtre partir en taxi. Sans bagage. Et le taxi disparaître de sa vie. Depuis, plus de nouvelles. Et maintenant, cette lettre. Cette lettre taxée qui est peut-être d'elle.
et que veut-elle? J'aimerais mieux que je ne sois pas d'elle. Mais l'on ne sait jamais, elle a peut-être besoin d'un service. Ou veut-elle revenir? Est-ce que je la reprends? L'aimes-tu encore? Peut-être est-elle dans le besoin? A-t-elle eu des remords? Me demande-t-elle pardon? Est-ce que je la reprendrai? Il fallait 100 pas pour réfléchir. Il réfléchit jusqu'au lendemain, en se demandant ce qu'il ferait si elle lui demandait de vivre avec lui. Cette idée lui donne dégoût, car elle se souvient de cette union qu'il a eue. Il en a de la haine. Si elle me demande de vivre, de revivre avec moi, je lui dis non. Les heures passent, il passe une nuit agitée. Début de matinée, à son travail, on sonne à l'interphone. Oui, c'est le facteur pour une lettre taxée. Bien, je vais ouvrir.
Il va ouvrir au facteur. Qui lui donne la lettre. Lui, il lui donne l'argent. Merci. Et tremblant, il va à son bureau. Pour s'enfermer, s'asseoir.
Si elle me demande, je dis oui, oui, oui. Je l'aime encore, oui.
Regarde l'enveloppe. L'écriture, c'est une écriture à la main, comme ça. Tremblant, il la palpe. Il semble y avoir quelque chose dedans. Tremblant, il ouvre la lettre. Une cassette audio. Sans boîtier. Et une carte postale. Un chanteur rock et des feuilles sassem. Déçu, il retire la carte. Salut Pierre, merci de bien vouloir tamponner pour la sassem les feuilles de passage. Guillaume, encore, à bientôt, amitié. Déçu, triste, il a passé des heures à se faire du souci, à se remémorer son drame.
Un désir de vomir lui vient. L'amour de Florence est revenu et le torture. Il ne se peut plus son absence départ. Cela lui est insupportable. Un cafard terrible prend. Il voit tourner tout autour de lui. Il jette cette sorte de lettre taxée sur la table. Il a envie de pleurer. Il l'aime toujours. Il suffit d'un rien pour s'en apercevoir. Dégoût de tout. Regarde la lettre. Pauvre Guillaume. Guillaume, il n'y est pour rien. Il prend la feuille de la sassem, le tampon, la tamponne, signe. Met la cassette dans sa poche. Du bureau pour donner à la secrétaire du papier pour qu'elle envoie à Guillaume. La secrétaire se trouve à un bureau à côté du sien. C'est une jeune fille blonde, sympathique.
J'apporte. Vous donnerez. Vous enverrez ceci à Guillaume Ringuet. Merci.
Et il la quitte. Il sait qu'il sera toujours malheureux désormais.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La lettre taxée. Production mise en scène Junier Jean-Pierre enregistrée.